Black City Parade pour générique de lundi sport. Pourquoi pas, ça peut se faire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors normalement, si tout va bien, dans les studios de CFM Rodez, il y a du monde. Salut David Dumont.
Salut Rémi, bonsoir à tous.
Bon, je suis bien content de vous avoir. Il y a qui alors dans ces studios?
Ah bah moi comme d'hab, mes deux compères, David Fabien Ilfada et Jean-Claude Vigroux sont avec moi.
Bonsoir tout le monde.
Il y a Galabru
et attention,
et Michel Simon.
Salut Galabru et Michel Simon. Dans les studios de CFM Caylus, si tout va bien, il y a Jean-Claude Desfarges. Salut Jean-Claude.
Si tout va bien, et là, donc bonsoir à tous.
D'abord, écoute, tout va bien. Et ici, dans nos studios à Montauban, il y a Jennings Darcourt. Salut Jennings.
Salut tout le monde. Moi, j'avais peut-être une envie, on pourrait changer, peut-être c'est les drôles de dames, non, à Rodez.
Jennings, si t'as envie, faut y aller. Hein.
Là, ça attaque grave. Bon, alors... vous avez compris qu'Aurélien n'est pas là aujourd'hui, c'est donc moi qui suis aux manettes, et il faudra sans doute excuser quelques broutilles techniques, puisque
mais
ça
non,
fait longtemps que je n'ai pas été de ce côté-là du laboratoire. Alors, quel est le programme aujourd'hui, David?
Eh ben, on va faire le tour complet des résultats sportifs du week-end, des résultats internationaux, nationaux, régionaux et puis locaux. Et puis, on s'intéressera aussi dans notre dossier aujourd'hui à une discipline que vous ne connaissez peut-être pas. En tous les cas, moi, je ne la connaissais pas avant de la découvrir ces derniers jours et grâce à toi, Rémi, le roller derby. On verra que c'est une discipline sportive.
Et sexy.
Mais pas seulement.
Et sexy.
Et sexy, voilà. Et on découvrira ça avec le président de l'association Roller Derby Toulouse, une association qui sera d'ailleurs à l'entraînement un peu plus tard dans la soirée du côté d'une place toulousaine.
Et ben voilà, et on commence immédiatement par les résultats nationaux et internationaux avec, pour commencer, du football.
Bien, le Paris Saint-Germain est toujours en tête sans avoir joué. En effet, c'est mercredi que les Parisiens pourront être gratifiés du titre de champion du Qatar. Oh, pardon, champion de France, avec 8 points d'avance sur Monaco, qui n'a pas joué non plus, puisque ces deux équipes vont jouer contre les gars qui ont joué la Coupe de France, gagnée par Guingamp, le petit Guingamp qui a battu Rennes 2-0, match moyen. On peut pas dire que ce soit un grand match avec une équipe de Guingamp qui avait davantage faim que l'équipe de Rennes. Peut-être les huîtres passaient mieux du côté de Guingamp que du côté de Rennes. Et les Guingampais ont gagné par 2-0 et ont remporté ainsi cette Coupe de France. Donc Paris Saint-Germain, Monaco ne jouant pas. Lille, quant à lui, a été chercher le nul à Bastia, un but partout et se retrouve à la troisième place. Saint-Étienne a fait la bonne opération en battant Montpellier 2-0 et Lyon a pris le bouillon hier soir à Marseille. La Sardine a battu la Quenelle par 4-2. Il y avait un visage très triste dans les tribunes, c'était celui du président Aulas. Lyon qui se retrouve à la cinquième place. Marseille, lui, remonte à la sixième place à 2 points seulement des Lyonnais. Pour ce qui est des équipes du bas de tableau, Ajaccio est complètement condamné. Valenciennes est pratiquement cuit.
Cuit. Mathématiquement
cuit. Ouais. Voilà, donc les frites sont pas trop cuites, noires même. Et Sochaux garde espoir sous perfusion avec le masque à oxygène sur la bouche. Les Sochaliens peuvent sauver leur saison. Il reste 2 matchs à effectuer. Et Sochaux peut passer devant Evian Thonon.
Alors avant de passer aux suites, et notamment au tennis, je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur le football. Et vous qui êtes passionné de foot, messieurs, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce petit Guingamp, ce petit poussé là qui remporte la Coupe de France 2 fois de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir énormément d'argent pour gagner au football? Et qu'est-ce que c'est qui se passe là?
Mais déjà, pour avoir envie de gagner d'abord, C'est comme dans tout, c'est pas spécial au football. Si vous avez envie de quelque chose et que vous soyez passionné, vous gagnerez. Le petit Guingamp, puisque on peut l'appeler ainsi, c'est une ville quand même de 7500 habitants seulement, mais qui doit être bien sponsorisée et qui a pas un budget phénoménal, mais des joueurs qui ont faim et qui veulent aller le plus haut possible. C'est ce qui a fait la différence face à Rennes.
Alors Rémi, je te reprends un petit peu, ils n'ont pas gagné deux fois de suite, mais deux fois en 5 ans, oui. Les Guingampais. Et non, après, c'est tous ceux qui disent qu'il faut de l'argent, forcément beaucoup d'argent pour gagner quoi que ce soit, ben là, ça prouve que non, pas du tout. Au contraire, même un club en Ligue 1 qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a des joueurs, comme on dit, où le ballon, c'est leur ami, c'est Lorient. Lorient n'a pas beaucoup d'argent. Et pourtant, ils ont des joueurs techniques où ils arrivent à manier le ballon et tout. Et ils arrivent à faire quelque chose. Alors, je sais, on va me dire, oui, mais c'est que la Ligue 1 et tout. Si on veut être très performant dans des grandes compétitions comme la Champions League, il faut beaucoup d'argent. Ça, ok. Mais à moyen terme, j'ai envie de dire, dans un championnat où tout le monde a sa chance en Ligue 1, tellement qu'il est faible, ce championnat, ben, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent.
David Fabien ?
Oui, une petite réaction. Bah ouais, la Ligue 1 est faible. Je suis pas sûr qu'elle soit si faible que ça. Moi, je pense qu'au contraire, elle est bien équilibrée. Le plus important dans une équipe de football, pour moi, c'est la cohésion. Il faut un groupe, il faut des mecs, des copains qui invitent se mouiller le maillot pendant 90 minutes ensemble. Ben là, ça le prouve. Guingamp, comme tu dis, en 5 ans, il la remporte deux fois cette coupe. Je suis très content, moi, pour Guingamp. J'aime beaucoup ce petit club. Je trouve que voilà, il y a une belle mentalité. C'est une famille.
Mais c'est que ça, ou c'est aussi de la disponibilité de joueurs pour pouvoir se rendre aux entraînements.
Non, mais ils sont obligés d'aller aux entraînements.
C'est les professionnels, hein, donc des professionnels. Même que ce soit Guingamp, que ce soit une petite équipe, que ce soit une petite, pas on va dire un village, mais quand c'est certainement le plus petit club de la Ligue 1, ça reste des professionnels. Donc
c'est des professionnels qui sont payés mais ils sont payés le même prix que
un
les...
peu moins, mais
ah,
mais
comparé à Zlatan, ouais. Certainement qu'un mois de Zlatan, ça paye à l'année Guingamp, je pense.
Pratiquement,
c'est vraiment une cohésion. Et puis je pense qu'ils ont quand même, il faut lui rendre un bel hommage. C'est l'entraîneur de Guingamp qui a su fédérer, qui a su faire avancer ses mecs, qui a eu un bon état d'esprit, une bonne cohésion. L'argent ne fait pas tout dans le football, et heureusement.
Ouais, et puis
on voit des choses comme ça qui permettent encore d'aimer ce sport.
Et puis Gouvernec, un petit truc aussi, c'est qu'ils vont jouer
Guingamp était un bon joueur lorsqu'il était joueur, mais il a su faire la mayonnaise avec les ingrédients dont il disposait, et c'est très bien, et on voit le résultat.
Et puis Guingamp va jouer la Ligue Europa l'an prochain. Ça, c'est quand même un club qui est au bord de la relégation va jouer la Ligue Europa. C'est quand même C'est quand même impressionnant, pas la première fois,
Jennings. C'est eu arrivé déjà. Après, voilà, ça fait partie des règles du jeu. Je veux dire, les mecs, s'ils ont gagné cette Coupe de France, c'est qu'ils la méritent. Ils sont arrivés au bout. T'as une sucette, c'est quoi? C'est la Ligue Europa. Eh ben, écoute, vas-y, joue la Ligue Europa.
Ils ont éliminé Monaco en demi-finale. Et ils sont tombés contre des plots en finale. Donc, déjà.
Bon, affaire à suivre. Bon, moi, j'apprends, en fait, qu'à Guingamp, ils sont aussi professionnels. Ça me déçoit beaucoup.
Et puis, ils gagnent, quoi, 20 000 euros par mois, les joueurs, un truc comme ça.
C'est tout. C'est vraiment ridicule.
Plus t'inquiète pas, les bons joueurs de Guingamp, ils ont aussi des Ferrari comme tous les autres joueurs de Liga.
En tennis, rapidement.
Ouais, bah c'est le tournoi de Madrid. Hein. On fait chaque semaine les tournois avant le grand tournoi sur la terre battue de Roland-Garros à la fin du mois de mai. Et aujourd'hui, on avait deux face-à-face entre Français. Il y en a un qui n'est pas terminé entre Gilles Simon et Benoît Paire. L'autre opposé Joe Wilfried Tsonga à Roger Vasselin. Edouard Roger Vasselin, et c'est Tsonga qui s'est qualifié pour le deuxième tour de ce tournoi espagnol sur terre battue. Djokovic est forfait et Nadal est là. On va voir ce qu'il donne. Il n'est pas super en forme. Voilà, le numéro 1 espagnol et ex-numéro 1 mondial.
Ok, un petit peu de musique et puis on... On se revoit dans un
rugby.
Hein? Allez, d'accord. À de suite.
Le. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town. No postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a running out.
count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals.
Royals.
It's the one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Lord Royals sur CFM, c'est lundi sport. Il est temps maintenant de parler de rugby, Jean-Claude Desfarges.
Oui, rugby. Alors, top 14 et Pro D2, c'était la dernière journée du top 14. Une journée folle, complètement inouïe. J'ai jamais vu ça depuis au moins plus de 10 ans. 12 clubs étaient en ballotage, soit pour des qualifications, soit pour ne pas descendre. C'était en bas du classement que le suspense était le plus fort entre Bayonne, Grenoble, Oyonnax et Perpignan qui luttaient à distance pour ne pas descendre justement. Et le match les plus palpitants ont eu lieu à Clermont où Perpignan qui essayait de se sauver à 13 minutes de la fin était encore en top 14 en tenant l'ASM par 22 à 22, alors que Oyonnax à Brive était mené 19 à 3 et en 7 minutes les Oyonnaxiens ont marqué 14 points, deux essais qui les a sauvés et Perpignan a pris une pénalité sur le gong, même en ayant le bonus défensif, Perpignan rétrograde en Pro D2. Alors vraiment un club comme l'USAP, 103 ans en haut de l'affiche, que ce soit en top 16, en national, enfin tout ce que vous voulez dans le sport, qui descend en Pro D2, c'est quand même la nouvelle qui a fait une bombe dans le top 14. Alors je vais vous donner les derniers résultats qu'il y a eu, principaux. Toulouse, grâce à sa victoire sur Grenoble par 38 à 8, se positionne en quatrième position et va recevoir les barrages à domicile. Toulon a écrabouillé le Stade français dans les dernières secondes par 17 à 15. Le Stade français aurait pu se qualifier, mais pour deux points, Toulon maintient sa première place au classement. Montpellier a écrasé le Racing et se maintient en deuxième position. Et au classement, on trouve qualifié d'office Toulon et Montpellier, premier et deuxième. Clermont et Toulouse vont recevoir en barrage respectivement Castres, sixième, et le Racing Métro, cinquième. Et donc descendent en Pro D2, Perpignan et Biarritz. Il y avait une journée de Pro D2. Là, on jouait l'avant-dernière journée. Bon, Lyon, on le sait, est déjà en top 14. Agen, malgré sa défaite à Lyon, a obtenu le point de bonus et se place en deuxième position. Donc, jouera les barrages de montée éventuelle à domicile aussi. Et en fin de classement, Bourg-en-Bresse et Auch, ayant perdu respectivement, descendront en Fédéral 1. Mais la journée était marquée par le départ de plusieurs joueurs en retraite à Albi, où je me suis rendu. Et Albi, qui jouait contre Bourgoin, n'avait rien à jouer, rien à perdre. Mais c'était surtout une journée émotion pour l'arrêt de carrière de trois joueurs et du départ de Henri Brocan en retraite aussi. Alors j'ai fait un petit reportage au Sporting Albigeois.
Monsieur Brocan, dernier match à Albi.
Oui, mais c'est pas le dernier match de ma vie.
J'imagine.
Il y en aura d'autres.
Alors, quel est l'effet le plus marquant qui vous restera dans votre mémoire?
Ça a été la demi-finale contre Mont-de-Marsan que nous gagnons en fin de match. Voilà.
Et la suite de votre carrière? Parce que je suppose que vous allez rester dans le rugby quand même.
Bien sûr,
monsieur comme vous,
bien sûr,
vous allez rester avec les jeunes?
Oui, oui.
Bravo. Merci. Et puis merci pour votre carrière, monsieur. Johanna, moi, un petit mot, s'il te plaît. Alors, retraité aujourd'hui, alors?
C'est, oui, ça y est, mais faut bien une fin. Ouais, retraité.
Je sais pas, il y a tellement de choses qui me passent par la tête. Voilà. Je suis là pour profiter.
J'ai commencé à te voir jouer à Montauban.
Ah oui,
j'imagine
oui.
Le nombre de matchs.
Ça fait pas mal d'années. Mais bon.
Alors, combien de matchs à peu près
Je sais pas, une centaine. Une centaine de matchs.
Et quel est le meilleur souvenir qui va te rester de ta carrière Si t'en as aujourd'hui qui te sort, c'est lequel?
Mes trois finales avec Albi. C'était fabuleux.
C'est vrai?
Ouais.
Bon, bah écoute, passe une bonne retraite et puis reste dans le milieu du rugby parce que t'es trop bon.
Merci.
Ouais, ton sentiment ce soir avec le départ de tes amis?
Ouais, franchement, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est des mecs vraiment importants du club qui partent ce soir. Voilà, j'ai été très heureux d'être avec eux. Ça a été une saison compliquée, mais voilà, je suis content parce qu'ils partent sur une bonne note. On a gagné ce soir, c'était le plus important. Et ils méritaient bien ça, je crois. Voilà, c'est beaucoup d'émotions ce soir.
Et on nous a, j'ai lu quelque part que tout ton staff était fier que tu sois le capitaine de cette équipe. Alors dis-nous ton secret d'être un bon capitaine.
Bon, je sais pas quoi vous dire. Non, je sais bien. Bon, je suis content. Voilà, après, ça a été une saison compliquée. Mais honnêtement, il y a vraiment du cœur et des valeurs dans cette équipe. Et dans ce rugby moderne, je crois que c'est encore important. Et si on a pu se sauver cette saison, je pense que c'est en grande partie grâce au cœur de l'équipe, à ses valeurs. Voilà.
Ouais, mais la prochaine, vous allez vous taper du SAP, Gary, ses compagnies, ça vous fait pas peur?
Non, franchement, ce qu'on a vécu cette saison, moi, personnellement, je suis remonté à bloc. Et je suis sûr que l'année prochaine, ça sera une grande saison.
À Nicolas, s'il vous plaît. Ouais, on va être bien renforcé. Oui, bonjour, Rémi Torruda de CFM Radio. On va être à l'antenne dans une petite minute. Hein, ne raccrochez pas.
Pas du tout là, la saison future.
Bravo, Sporting.
Merci.
Samuel, ton émotion aujourd'hui de partir du
Derby. Ouais, très ému. Je pense que on a fait un match, on est forcément un peu déçus parce qu'on voulait donner plus de plaisir à notre public et je crois que les conditions climatiques ont fait que voilà, avec beaucoup de vent, on a eu du mal à sortir notre camp et lancer notre jeu. Donc, une belle fête pour les mecs qui partent et voilà, j'espère sincèrement que le SCA vivra de nouveau de belles heures.
Et dans ceux qui partent, il y a Samuel Marquez aussi.
Oui, voilà, mais après je pense que moi c'est rien, je pense que c'est il y a trois mecs à qui le SCA doit beaucoup et je pense qu'on leur doit beaucoup et il faut faire une belle fête pour ces mecs là.
Bon, alors faites bien la fête ce soir, vous le méritez.
Merci.
C'est quoi rien, dernier match aujourd'hui au stadium, ton sentiment?
Eh bien, grosse émotion, voilà, bon, c'est le match est gagné. Mais voilà, c'est une page qui se tourne. On va le fêter, voilà.
C'est prévu quoi comme fête là?
Mais on va rester entre joueurs avec les supporters, ceux qui peuvent venir et on boit un coup au chapiteau et voilà, il faut.
20 ans de carrière au Sporting. Quel est le meilleur moment de ta carrière ici?
Top 14 bien sûr. La descente, la remontée, voilà. Après, voilà, c'est. Comme je dis, voilà, c'est une page qui se tourne, il y a des bons souvenirs qui restent, quoi.
Et ta vie après le rugby, c'est quoi?
Eh ben, déjà, j'ai mon boulot déjà, et après, voilà, on va regarder avec le club pour.
Tu vas rester près de.
Oui, je serai là, je serai pas loin.
Bravo.
Salut, c'est les abeilles, on vous fait de gros bisous.
Voilà, on finit en beauté avec les abeilles qui vont jouer la finale du championnat de France de Pom-Pom Girl le 17 mai.
On est tous avec les abeilles. Merci pour ce reportage, encore une fois, plein d'émotions. Jean-Claude Desfarges. Et le roller derby, alors, qu'est-ce que c'est exactement, David Dumont? Est-ce que tu peux nous présenter notre invité maintenant?
Eh bien, notre invité qui va nous expliquer ce que c'est qu'exactement que le roller derby, c'est Nicolas Goury, alias Braveheart 1789. Et Nicolas, ou Braveheart 1789, est président de l'association Roller Derby Toulouse. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, le roller derby, est-ce que ce serait pas ce truc où sur une piste, des filles à moitié dénudées se bousculent sur des patins à roulettes?
Faux.
C'est pas ça.
C'est un sport d'équipe qui se joue majoritairement au féminin mais aussi au masculin et elles sont loin d'être dénudées mais simplement avec des tenues qui permettent d'avoir la meilleure pratique sportive possible. Donc c'est comme des cyclistes peuvent avoir des trucs moulants, bah elles ont des vêtements qui leur permettent de pratiquer le roller derby.
Ouais, Nicolas. Et je suis allé voir sur votre site. Effectivement, c'est moulant, mais ça a pas grand chose à voir avec les cyclistes, hein.
Bah, écoutez, pourtant de plus en plus elles mettent des leggings et des corsaires, donc aussi bien chez les filles que chez les gars. Mais après voilà, c'est, je dirais pas que c'est sexy et encore moins d'une idée.
Voilà. Non, mais il y a un petit côté warrior, quoi, et un petit côté même, je sais pas, un petit peu
punk.
Punk, ouais. Il y a une certaine punk attitude finalement dans.
Ça c'est sûr. C'est, on va dire que c'est un sport relativement dynamique et rock'n'roll, dans le sens où voilà, c'est un sport co qui se fait en quad, donc en patin à roulettes à l'ancienne, et en plus de ça, les contacts sont autorisés, donc il faut bloquer les adversaires pour gagner le match. Donc c'est on va dire c'est un mix entre des avantages qu'on peut trouver dans d'autres sports, mais là tout est réuni en un seul.
Le roller derby, ça vient des États-Unis, Nicolas?
C'est ça, ça vient des États-Unis, ça date de 1930. Donc c'est un très très vieux sport qui a connu, comme tous les sports, énormément d'évolutions, de règles, de temps de jeu, de type d'équipe, etc. Puisque à l'époque c'était mixte et c'était des marathons sur une semaine de 4000 km. Donc c'était pas rien. Aujourd'hui ce sont des matchs qui se jouent avec deux équipes de 14 sur une heure de jeu. Donc voilà, c'est déjà autre chose.
Est-ce que ça peut se rapporter à ce fameux film là, Rollerblade?
Rollerball.
Ah,
Rollerball, c'est notre génération, ça.
Hélas, au roller derby, il n'y a pas de balle. Donc,
ah, il n'y a pas de balle.
Non, c'est vraiment une course. Si vous avez 5 personnes dans chaque équipe à un moment donné sur la piste, pendant un round de 2 minutes, on appelle ça des jams dans le jargon du roller derby. Et en fait, sur ces 5 personnes, il n'y en a qu'une qui a un couvre-casque avec une étoile, qui va devoir doubler l'équipe adverse le plus de fois possible et qui va marquer un point par adversaire doublé. Donc du coup, vous avez votre équipe, vous, avec 5 personnes et une qui marque les points. Donc vous avez du coup 4 bloqueuses et une marqueuse de points. C'est pareil pour l'équipe adverse. Et le but du jeu, c'est que vous fassiez passer celle qui marque les points de votre équipe tout en bloquant celle qui marque les points pour l'autre équipe et tout en empêchant les autres bloqueuses de l'équipe de mettre en place leur stratégie pour faire passer leur marqueuse de points. Donc c'est attaque-défense en même temps. C'est assez complexe, mais c'est très très dynamique sur les premières secondes du coup de sifflet du départ. Et ça va très très vite.
Jean-Claude Vigrou, il a une question, Hibou.
Oui, ben c'est vrai, on parlait de la tenue, mais enfin, c'est quand même des tenues qui avantagent l'anatomie de ces joueuses-là.
Il revient.
Faut être honnête, l'avantage aussi du roller derby, c'est que tous les physiques sont représentés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gabarit type qui permet de pratiquer ou de ne pas pratiquer le sport. Une petite grosse aura autant d'importance qu'une grande maigre et vice-versa avec tous les mix qu'on peut faire.
La petite grosse, elle a un centre de gravité plus bas, donc elle tient mieux la route que la grande à forte poitrine qui a tendance à pencher vers l'avant.
Non,
elle peut rouler aussi.
Non, oui. Attention, j'ai des propos qui dépassent ma pensée, évidemment.
Non, l'avantage de ce sport, c'est qu'il accueille tout le monde. Et comme je disais, chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. Donc même une fille très très petite trouve sa place dans l'équipe, tout comme une grande aussi. Donc,
Est-ce que ça castagne? Est-ce que tous les coups sont permis? Est-ce qu'on a le droit de se faire tomber, de se faire des crocs en jambes, de se mettre des coups? Où est la limite?
Alors la limite, elle est simple. La limite, elle est fournie par 60 pages de règles qui sont éditées par une association privée américaine et qui s'appelle la WFTDA et par les 7 arbitres et les 11 arbitres sans patins qui vont officier sur le match et qui vont faire en sorte que le fair play et la sécurité soient respectés. Et pour ça, donc, c'est très très strict. C'est-à-dire que bien sûr, on peut y aller comme un bourrin ou comme une bourrine pour défoncer l'équipe adverse. Par contre, faut le faire dans les règles. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de taper dans le dos, ce qui est normal parce qu'en roller, ça serait extrêmement dangereux. On n'a pas le droit de taper tout ce qui est en dessous des mi-cuisses. Donc on oublie les béquilles, on oublie les crocs en jambes, on oublie les tacles, etc. Parce que ça, c'est encore une fois extrêmement dangereux. Et après, on tape pas dans la tête. Et on n'utilise pas sa tête non plus pour donner des coups et on n'utilise pas ses bras. Voilà, on n'a pas le droit de s'amuser à nager et à pousser les adversaires avec ses bras. Donc vraiment tout se joue au niveau des épaules, des hanches, du dos, avec avec des gens qui sont très très mobiles sur leurs patins, qui empêchent les autres d'avancer en se mettant devant, en freinant, en feintant, etc. c'est beaucoup de stratégie, mais après ça peut être relativement spectaculaire, hein. Une fille qui arrive pleine balle dans un mur qui n'avance pas et qui donne un contact au niveau des hanches, vous avez facilement quelqu'un qui va valdinguer à 3 mètres de là, quoi.
Et voilà, ça joue des hanches, j'en étais sûr. Comment se place l'association Roller Derby de Toulouse et donc l'équipe de Roller Derby de Toulouse dans le championnat?
Alors, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas encore de championnat de France, parce que le sport est, on va dire, naissant en France, hein, depuis 2010. En 2010, il y avait trois équipes, hein, Paris, Toulouse, Bordeaux. Aujourd'hui, il y en a peut-être 80 qui se sont montés dans chaque coin de la France, et c'est très difficile d'organiser tout ça parce que chacun a créé un club de roller derby ou une section de roller derby pour des raisons différentes. Il y en a certains, ils ont vu en ce sport une possibilité de s'émanciper au niveau féminin, d'autres ont vu de la compétition, d'autres ont vu une nouvelle version de faire du rugby, etc., etc. Donc on n'est pas tous sur la même longueur d'onde pour tout, donc c'est encore difficile de s'organiser. Cependant, il y a un classement européen qui existe, puisqu'il y a plus de 320 équipes en Europe qui ont déjà fait des matchs. Et Toulouse se classe dans le top 20 européen, donc on n'est pas trop mauvais. Au niveau féminin, c'est dans le top 20 sur 320 équipes. Et au niveau masculin, puisque Toulouse est une association mixte avec une équipe masculine de roller derby, donc les gars sont champions d'Europe sur une 20-25 équipes européennes.
D'accord. Est-ce que ça attire du monde? Est-ce que vous avez de la demande? Qui c'est qui vient jouer au roller derby aujourd'hui?
Aujourd'hui, il vient jouer au roller derby. Il n'y a pas de photo type de la pratiquante ou du pratiquant. Ça va de 18 ans minimum jusqu'à 55 ans. Ça va de l'étudiante au médecin, en passant par le chômeur et l'ingénieur de chez Airbus, quoi. C'est vraiment, ça tape très très large. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. C'est ça qui fait la force de l'association, c'est ça qui fait la force de ce sport, c'est que voilà, il y a toutes les barrières et vraiment tout tombe à partir du moment où les joueuses et les joueurs pratiquent ensemble le roller derby.
Alors, cette conversation me passionne et je sens qu'elle passionne aussi le reste de l'équipe de lundi sport. Vous avez encore un petit peu de temps devant vous parce qu'il faut que j'envoie les infos et puis je vous propose qu'on décale un peu notre programme, les gars, si vous êtes d'accord, et qu'on continue notre conversation avec Nicolas Goury, parce que je voudrais savoir pourquoi il s'appelle aussi Braveheart 1789. Ça marche?
Ça marche.
Ok, à tout de suite.
CFM. Il est 18h. Envie de cuisiner à la plancha ce soir? Arrêtez-vous chez les Maîtres du Feu, avenue Chamier à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM, toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir à tous. À Albi, la zone d'activité éco de Riemas, bientôt prête à accueillir les premières entreprises. 11,5 hectares seront à même de les accueillir dès cet automne. Selon Robert Gauthier, chargé du développement économique à la C2A, il s'agira d'entreprises industrielles et de services à l'industrie, mais pas de commerce, sauf pour des plateformes d'e-commerce. D'ici là, la première tranche de travaux qui ont commencé en 2012 va se poursuivre avec la réalisation des réseaux humides d'assainissement et pluvial. Ils sont contre les éoliennes. En Aveyron, un collectif d'associations s'organise pour dire stop à l'invasion des éoliennes. 27 associations se sont réunies il y a 6 mois dans un collectif baptisé Sauvons l'Aveyron. Les opposants ont des profils variés, agriculteurs, actifs ou retraités, assistantes sociales, anciens pompiers ou professeurs de philosophie. Certains ont réagi quand ils ont appris que des éoliennes de 140 mètres de hauteur s'installeraient à 500 mètres de chez eux et que le prix de leur maison s'en trouverait dévalué de 30%. D'autres assurent n'être concernés par aucun projet en particulier, mais refusent que des paysages soient détruits au profit de spéculateurs. Sauvons l'Aveyron a organisé une manifestation le vendredi 7 mars, en opposition à l'industriel éolien justement, et dans le département, 94 éoliennes dominent les vallées. Demain, à 17h20 sur M6, 3 boulangeries du Tarn-et-Garonne seront en lice pour l'appellation « La meilleure boulangerie de France ». Cette troisième semaine mettra à l'honneur la région Midi-Pyrénées, puisqu'après le Lot aujourd'hui et le Tarn-et-Garonne demain, le programme se déplacera en Haute-Garonne mercredi et jeudi dans l'Ariège. Et on termine par un mot de rugby. Montauban reste invaincu. Le résultat de ce week-end, l'USM s'est rendu sur la pelouse d'Aubenas et remporte le quart de finale aller de Fédéral 1 sur ses terres ardéchoises. Score final 20-19 au terme d'un beau match bien serré. Montauban inflige à Aubenas sa première défaite à domicile depuis 2 ans. Dimanche prochain à Sapiac, Montauban entamera le match retour avec un point d'avance. Montauban est la seule équipe à s'être imposée à l'extérieur en quart de finale aller. Excellente fin de journée à vous tous à l'écoute de CFM.
CFM, CFM, Normidie-Pyrénées, la voix des pays au son du rock.
Lundi Sport, la suite, toujours avec Jennings Darcourt ici dans nos studios. Ça va Jennings?
Toujours.
Jean-Claude Defarge à Caylus, ça va Jean-Claude?
Ça va super.
Et Jean-Claude Vigroux, David Fabier, David Dumont, tout va bien les gars, Rhodes?
Ça tient.
Avec nous par téléphone, Nicolas Goury, président de l'association Roller Derby de Toulouse, avec qui je voudrais qu'on continue d'un petit peu de discuter. Et notamment parce que bien j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ce surnom Brevert 1789.
En fait, c'est assez simple. Pour chaque pratiquant de roller derby, à partir du moment où ils ont atteint les capacités de patiner en sécurité dans une équipe, c'est-à-dire qu'elles ont appris, elles et ils ont appris les bases du patinage et le minimum de tactique, c'est ce qui fait un peu le folklore de ce sport et le charme ou au moins le style, c'est que chaque joueur peut choisir un pseudo et un numéro. Voilà, donc on peut se lancer dans beaucoup de choix possibles et inimaginables en termes de pseudo, de surnom, pour avoir, on va dire, un nom de scène et pour se faire plaisir sur la piste et sortir, on va dire, des sentiers battus des sports traditionnels.
David Dumont.
Ouais. Et alors, mais du coup, Nicolas, j'insiste. Brevert 1789. On sait toujours pas.
Non, mais en fait, c'est très simple. Moi, j'ai commencé le roller il y a plusieurs années maintenant, avant le roller derby. Je faisais des randos sur Toulouse et j'avais des patins bleus et blancs, voilà, tout simplement. Et je m'amusais souvent à faire énormément de bruit sur les randonnées qui étaient organisées par Roulé Rose à Toulouse. Et beaucoup d'amis m'avaient surnommé Brevert, comme dans le film, bah, avec les patins bleus et blancs qui correspondaient au visage de Mel Gibson, je crois, si je ne me trompe
pas.
Et du coup, quand j'ai commencé le roller derby, j'ai gardé ce pseudo-là. Mais, cœur brave, les filles ont estimé que ça faisait un peu trop gentil. Et donc, ils ont changé le cœur à la fin par le heurt de coup de poing. Ils m'ont dit, un brave coup de poing, c'est quand même beaucoup plus percutant. Donc, du coup, j'ai gardé, les filles ont choisi ce pseudo. J'ai gardé la modification. Voilà. Et après, on en a des vertes et des pas mûres dans l'assaut, hein. Moi, le mien est relativement facile. Mais voilà, chacun vient avec sa petite histoire et son petit pseudo qui explique la personnalité de chacun.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant quand même dans ce sport, le roller derby, Nicolas, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez un petit peu abordé dans la première partie de notre entretien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de ce sport pour plein de raisons différentes. Bien sûr, il y en a qui vont faire de ce sport parce que c'est du sport, tout simplement, d'autres parce que c'est de la vitesse, d'autres parce que c'est du roller, d'autres peut-être pour rencontrer des nanas, mais il y en a surtout qui vont faire du sport pour l'émancipation, pour le droit à être différent, à avoir le corps qu'on a. Puisque comme vous l'avez dit, il peut y avoir des gros, il peut y avoir des maigres, il peut y avoir des hommes, il peut y avoir des femmes. C'est le droit à la différence et avant tout même pour certains au départ à une certaine brutalité féminine, non ? Brutalité, c'est pas le mot, mais voilà quoi.
Non,
c'est...
non, mais après, on rentrerait dans des grands débats assez compliqués. Il y a des livres blancs qui existent au sein du gouvernement et au sein des institutions qui expliquent que la pratique du sport féminin est problématique en France et n'est pas assez développée. Donc, à partir du moment où là, le roller derby est à 90% féminin, je trouve que c'est le meilleur exemple pour prouver que si un sport est dynamique comme le roller derby est développé pour les femmes et par les femmes et par les gens qui veulent développer ce sport, eh ben, il y a de plus en plus de pratiquants. Nous, on est aujourd'hui une asso de 130 licenciés, ce qui est relativement énorme. Pour un club aussi jeune que le nôtre, j'ai 75% de femmes, puisque après, bon, on a une équipe homme qui prend de la place aussi. Moi, ça me fait plaisir de voir des femmes qui, s'il n'y avait pas le roller derby, elles ne feraient pas de sport, parce que c'est ce sport-là qui leur parle, c'est ce sport-là qu'elles ont envie de faire et avec lequel elles ont trouvé un équilibre.
Nicolas, ce sport se déroule sur une piste plate ou inclinée comme un vélodrome ?
Alors, il se déroule sur une piste plate, de la taille d'un terrain de basket, entre un terrain de basket et un terrain de hand, voilà. Sur piste plate de ce format-là, les pistes inclinées, on les trouvait dans l'ancienne version, qui avant se jouait dans les vélodromes, bien sûr, mais ça, c'était il y a très 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 longtemps. Il y a une version sur piste inclinée qui existe aux États-Unis avec à peu près les mêmes dimensions que sur piste plate. Mais même aux États-Unis, ils ont des problèmes de coûts et d'infrastructures, et c'est très très difficile de conserver une piste inclinée pour les entraînements, pour les matchs, etc. Donc voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et il n'y a pas de secret. Donc aujourd'hui, je pense que 95% de la pratique mondiale se fait sur piste plate.
Et oui, parce que par exemple, si nous à Montauban, on voulait monter une équipe de roller derby, est-ce qu'on le pourrait est-ce qu'on pourrait utiliser un des gymnases, une des infrastructures déjà existantes, ou est-ce qu'il faudrait quelque chose de particulier pour pouvoir jouer à ça?
Alors, si vous voulez monter une association roller derby à Montauban, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai et que je donnerai tous les conseils possibles et imaginables pour pouvoir le faire. Et après, c'est une simple demande à la mairie pour utiliser un créneau sportif, puisque en effet, vous pouvez utiliser n'importe quel gymnase pour pouvoir patiner. C'est des patins avec des roues en plastique, des chaussures en cuir. Vous avez des protections, hein, les genoux, les coudes, les poignets, le casque et le protège-dents pour pouvoir jouer. On n'abîme pas le sol. Il n'y a pas de crosse, il n'y a pas de palais, il n'y a pas de balle, il n'y a rien du tout. Donc vous tournez en rond tout simplement, hein, à la limite vous faites la clim dans le gymnase. Donc vous pouvez bien sûr utiliser les infrastructures sportives de votre ville.
Eh ben voilà, merci beaucoup Braveheart 1789, Nicolas Goury, président de l'association Roller Derby Toulouse. On vous laisse vaquer à vos occupations. C'est quand le prochain entraînement ?
Merci beaucoup. Le prochain entraînement, il y en a les lundis, mercredis et jeudi soir, trois fois par semaine. Mais le prochain match, c'est le 17 mai au gymnase de La Ramée. C'est l'équipe A de Toulouse féminine qui va rencontrer l'équipe de Birmingham qui vient jouer donc à Toulouse. Et les hommes ont le même jour, juste avant les femmes, un match contre l'équipe homme de Birmingham.
Et je suis sûr qu'il y a du public là, non ? Il y a du public ?
Il y a du public parce que c'est un match homme suivi d'un match femme. Il y a vraiment pour tout le monde et il y a du gros, gros, gros niveau puisque ce sont que les équipes A qui jouent. Donc c'est vraiment l'élite aussi bien féminine que masculine.
Il y a de l'ambiance dans les tribunes ?
Il y a énormément d'ambiance. C'est animé par un speaker qui explique les règles. C'est très dynamique et c'est très, très, très vivant. Quand on vient voir un match de roller derby, on assiste à un show complet sportif, culturel et vraiment dans une très très bonne ambiance.
Allez, puis j'imagine qu'il y a un site internet de Roller Derby Toulouse.
C'est ça, rollerderbytoulouse.com tout simplement, et la page Facebook c'est la même.
Génial, merci d'avoir été avec nous pour en parler sur CFM Radio, Nicolas. Au revoir.
Merci beaucoup, bonne journée.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2.
Une révolution près de chez vous. Elle s'appelle PrestiVap, un concept écologique de nettoyage automobile complet à la vapeur. Votre voiture va être chouchoutée grâce à une prestation éco-responsable haut de gamme, entièrement réalisée à la main, rapide.
Les pépinières Ronchini à Nègrepelisse, c'est toujours des conseils, des idées originales, un choix exceptionnel de plus de 500 variétés d'arbres, d'arbustes sur plus de 10 hectares. C'est aussi la création, l'aménagement et l'entretien de vos parcs et jardins. Jean-Philippe Ronchini et son équipe dynamique vous accueillent tous les jours du lundi au samedi.
C'est la quinzaine de l'arbuste aux pépinières Ronchini du 28 avril au 10 mai. Venez profiter de remises jusqu'à -20% sur les plantes de haies et les arbustes à fleurs. Ouverture exceptionnelle le jeudi 8 mai. Renseignements sur pépinière-ronchini.com.
Attention, concert événement le vendredi 16 mai à Rignac. Le groupe Compay Segundo, créateur de Buena Vista Social Club avec son célèbre chanchant, donnera son seul concert dans la région. Rendez-vous à 20h à l'espace André Jarland de Rignac. Prévente réseau habituel et au restaurant Le Rascanel à Rignac. Infoline 06 83 32 69 38.
CFM.
Normidie-Pyrénées.
Normidie-Pyrénées.
L'esprit rock.
Du 8 au 12 mai, de 10h à 19h, venez faire de bonnes affaires à la Foire Expo de Rodez sur le site de Bourran. Rencontrez les exposants et participez aux animations. Gagnez des voyages, des tablettes, un scooter et une Peugeot 107.
La Foire Expo de Rodez, un événement centre presse.
CFM.
CFM.
En direct du Faubourg La Capelle. 101.2.
L'esprit rock.
Et la suite de ce lundi sport avec tout de suite des résultats locaux rugby, Jean-Claude.
Oui, alors donc on est sur les phases finales de fédéral. L'US Montauban est à moins 3 matchs de la montée en Pro D2. L'USM se déplaçait à Aubenas. Grâce au buteur, ils ont pris la différence en gagnant ce match. La seule défaite de Aubenas sur sa pelouse, l'USM a gagné 20 à 19, 14 points du buteur de Bourlon contre 15 points du buteur Dunlop, un essai de chaque côté. Le match retour devrait être plus soft. De l'autre côté...
Ouh ouais, 20-19, c'est pas gagné, hein, ça, je m'attendais à mieux moi, Jean-Claude, pour Montauban.
Mais non, parce que tu sais, Aubenas a attendu Montauban comme on attend le loup derrière le bois. Et puis de toute façon, Aubenas savait que c'était son dernier match de la saison. Donc il n'y a pas de problème. Le rouleau compresseur montalbanais va se développer à Sapiac. Mais il faut quand même, sur ce match, il y a un blessé grave. C'est Affaire Naberi qui a fracture du tibia péroné. Donc on a une pensée pour lui aujourd'hui parce que sa saison est terminée. L'autre match qui risque d'intéresser Montauban, c'était le match Lille-Mâcon, une des deux équipes que rencontrera l'USM quand elle se sera qualifiée pour les demi-finales. Lille a gagné sur sa pelouse par 20 à 15. J'ai appelé un dirigeant lillois. Ils ont fait un petit match et ils pensent qu'ils ont une petite équipe. Donc Mâcon, d'ailleurs, ça serait bien pour les supporters montalbanais, risque de passer au match retour parce que ça leur fera moins loin à monter à Lille en car ou en avion. C'est pas simple pour les supporters. Il y avait aussi on jouait les 16e de finale de la Fédérale 2. Alors, le Racing de Montauban a perdu sur sa pelouse par 25 à 27 contre Agde. Moi, j'étais au match. Agde a un gros paquet d'avant. Le Racing de Montauban a marqué un essai. Agde en a marqué 4. On voit la différence. Agde était largement supérieur. Millau a perdu sur sa pelouse contre le Cador de la Fédérale 2 Bergerac par 16 à 21. Groyer fait match nul à Saint-Médard-en-Jalles. Gaillac a perdu de 3 points à Lombez-Saint-Matan par 19 à 13. Et Castel-Sarrazin a battu difficilement en Villefranche-de-Lauragais par 15 à 9. Il y a aussi les 16e de Fédéral 3. Alors, le seul club qui nous intéresse localement, c'est Levezou-Segala qui a gagné contre Gimont par 31 à 21. Je pense que les Magrets devaient être bons en fin de match. On peut donner aussi un autre résultat, c'est Casté qui a battu Cahors par 19 à 16. Le match retour devrait être plus facile pour Cahors. Voilà pour la fédérale et pour le rugby. Moi, je vois Montauban bien cette saison, très très bien.
Un petit peu de musique et puis on passe à la suite dans quelques instants.
Blessing to the day I die. So for love, my friend, but the answer is no, no. Why you gotta be so
Écoutez CFM, c'est lundi sport et on donne la parole à Jean-Claude Vigrou qui a des mauvaises nouvelles pour Rodez. Jean-Claude.
Comment le savez-vous, mon cher Rémi?
Oh, je suis
sûr. Eh bien,
de
oui,
près.
Rodez a été battu à Nice sur le score de 2-1. Les Ruthénois ont oublié que sur la promenade des Anglais, qui est très plate, il y avait une grosse marche. la marche, c'était l'OGC Nice qui a battu les Ruthénois. Et Marseille en a profité pour aller gagner à Monaco sur le score de 3-2. Non, pas à Monaco, ils ont battu sur leur terrain Monaco 3-2. Grenoble, quant à eux, ont fait un peu comme les Ruthénois. Ils ont eu du mal à se débarrasser de Tarbes qui est relégable. Les deux clubs, Grenoble et Tarbes, ont fait match nul, 1-1. Et tout est à refaire pour les Ruthénois. Le destin est entre les mains de Rodez qui jouera la semaine prochaine face à Marignane. Donc, un club relégable qui, ces temps-ci, est en train de remonter au classement en ne perdant que très peu et en remportant donc le maximum de victoires qu'ils peuvent. Ça va être un match très difficile à Polignon et il faudra bien sûr l'appui du public ruthénois comme contre Martigues et même beaucoup plus nombreux. Essayons d'obtenir au moins 2000 spectateurs à Polignon le week-end prochain pour accueillir Marignane. Dans les clubs relégables, nous avons donc Marignane, Tarbes et Mont-de-Marsan qui lui est cuit et recuit et archi-cuit et donc une fin de saison qui n'est plus entre les mains des Ruthénois mais qui dépend des résultats des autres équipes.
Ouais, Rodez toujours en tête du classement, mais Rodez qui n'a que 2 matchs à jouer d'ici la fin de son championnat.
Et oui.
Alors que derrière les autres équipes en ont 3, ça va se jouer jusqu'au bout.
Eh ben voilà, on passe au handisport avec Jennings tout de suite et Benjamin qui nous a rejoint par téléphone. Salut Benjamin.
Salut à tous.
Et donc on commence avec du cyclisme tandem. Il y avait il y a une semaine à Saint-Pierre-d'Aurillac en Gironde, Jean-Dominique Bechet qui est président du comité départemental handisport du Tarn-et-Garonne et Olivier Fournalès ont participé à une course qui faisait 115 km et ont fini 32e sur 250 participants. Donc une très belle performance avec un temps qui puisait quand même très bon de 3h07. Et en marathon, au marathon d'Albi et dans l'épreuve handisport en l'occurrence, Christelle Alquier qui est de Rodez termine à la seconde place sur le podium. C'est une belle performance.
Ça, on la connaît bien, c'est une grande sportive Christelle.
Ah, vous la connaissez?
Oui, oui, bien sûr, on l'a déjà reçue ici.
Ah d'accord. Donc maintenant on va accueillir Benjamin qui va nous parler de le... Ben de l'handisport au niveau national. Salut Benjamin.
Oui, salut à tous. Donc effectivement, il y avait une grosse compétition ce week-end. C'était une manche d'épreuve de Coupe du Monde de handi escrime. C'était à Montréal au Canada. La France a performé. Elle a remporté 11 médailles de bronze, 7 médailles d'argent et une médaille d'or. C'est vraiment une excellente chose et puis c'est pour moi ils sont en progression parce que je vois qu'au fil des épreuves de Coupe du Monde ils gagnent un peu plus de médailles donc c'est qu'ils doivent être un peu plus précis. Donc effectivement il n'y a qu'une médaille d'or mais bon c'est déjà pas mal. Il faut noter aussi que en médaille d'argent il y en a une par équipe masculine à l'épée donc bravo à eux.
Benjamin. L'handi escrime, bon, j'ai déjà vu l'escrime en fauteuil, mais il y a d'autres handicaps peuvent pratiquer l'escrime en handisport qu'en fauteuil.
Alors il y a en fauteuil, il y a malvoyant, mais c'est pratiqué, mais il n'y a pas vraiment de, c'est pas reconnu en fait comme dans beaucoup de sports, comme ce qui est le tir sportif ou au tir à l'arc, voilà, par exemple, ce qui est malvoyant, c'est pas reconnu, en fait. La plupart jouent comme ça, il y a des petites compétitions, mais il n'y a pas de grosses compétitions, on va dire. Donc après, est-ce qu'il y a d'autres formes? Je ne pense pas. Moi, à l'heure actuelle, je connais surtout en fauteuil. En tout cas, c'est ce qui est paralympique, en tout cas.
D'autres résultats en e-sport?
Alors après, c'est au niveau calendrier, pour cette semaine à suivre, donc il y a deux choses à suivre. Donc vendredi soir, il y a la finale de la Coupe de France de basket fauteuil à Paris. Donc ça va opposer les deux meilleurs clubs en France actuellement. Donc c'est hier face à Le Canet. Donc ça risque d'être très relevé. Moi, je vais être sur place. Donc je pourrai vous en dire plus la semaine prochaine. Et il y a également la Coupe de France de quad rugby. Qui va se dérouler à Carquefou. Et pour vous, il y aura effectivement le Stade Toulousain en lice pour cette compétition.
Quad rugby, c'est le rugby fauteuil, mais avec une particularité?
Oui, au niveau des règles.
Bah, en fait, c'est l'équivalent du rugby du top 14. En fait, c'est un peu l'équivalent. Et en fait, la particularité, c'est que eux, en fait, les règles adaptées, en fait, c'est surtout qu'eux, ils ont un ballon de volley, en fait, pour jouer. Et le but, c'est de marquer dans le camp adverse. Et puis, on va dire que, il y a pas mal de physique, parce qu'il y a beaucoup de contacts. Donc, c'est très rude, mais c'est vraiment sympa à regarder, en tout cas.
Et dis-moi, il y a une différence entre le quad rugby et le rugby fauteuil? Je crois que au niveau des poteaux, enfin, c'est même pas des poteaux qu'il y a au quad rugby, ça se joue sur toute la largeur du terrain pour mettre l'essai, c'est ça?
Ouais, quad rugby, ouais, c'est sûr. En fait, effectivement, l'embut, c'est toute la largeur. C'est quasiment, en fait, c'est un grand, grand but. En fait, ils ont juste à aller dans la zone, en fait, un peu comme au football américain, en fait. Du moment qu'ils sont rentrés dans la zone, c'est que il y a but, quoi. En général, ça fait des gros scores, hein. Je sais pas, par exemple, 33-30 ou ce genre de choses. C'est très athlétique parce que les joueurs se dépensent beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une différence avec le rugby fauteuil, puisque le rugby fauteuil classique, c'est un peu l'équivalent du rugby à 13. Et eux, par contre, jouent avec un ballon ressemblant effectivement au ballon de rugby, où il faut qu'ils fassent des passes essentiellement vers l'arrière, hein, que vers l'arrière. Donc voilà, c'est vraiment différent pour les deux, parce que le quad rugby, c'est vraiment ouvert, quoi. Il peut y avoir une personne vraiment quasiment à la ligne d'en but, et ils peuvent faire la passe de leur camp. Donc c'est pour ça, c'est très ouvert, le quad rugby, c'est que voilà, c'est très ouvert.
Ok, Benjamin, écoute, on te remercie. On te dit non pas à lundi prochain, parce qu'on fera une pause dans l'émission Lundi Sport lundi prochain pour cause de divers congés, vacances et ponts, et on se retrouvera dans 15 jours, Dac.
Ok. Dans 15 jours.
Salut, et on retrouve Benjamin sur sa page Facebook Cœur Handisport. Salut. Et on passe immédiatement à l'agenda, messieurs. On commence par le football, David, Fabier.
Un petit peu de football. Donc mercredi, les deux matchs en retard de cette 36e
journée. C'est quoi cette voix professionnelle qui prend? T'as fait un stage ou quoi?
J'ai fait un stage, en fait. J'ai fait un stage. La radio pour les nuls.com. Non, c'est une voix suite à un dur week-end.
Voilà.
Je l'assume.
D'accord.
Monaco qui recevra donc l'équipe championne de la Coupe de France, Guingamp. À voir si Guingamp reste sur sa continuité de victoire et ira embêter Monaco sur le rocher. Et ensuite, le Paris Saint-Germain qui recevra donc Rennes, l'autre équipe bretonne. Est-ce que Paris sera sacré champion? Certainement. Ça sera à suivre mercredi soir. On en va noter une affiche pour le week-end prochain. Les Girondins de Bordeaux qui recevront l'Olympique de Marseille. Lille face au Paris Saint-Germain. Rennes, Sochaux et bien Nice. Bref, on s'est régalé, je crois, avec le multi-rugby. On va se régaler avec le multi-foot. Les deux dernières journées de championnat vont être très sympas à suivre.
Et on va se régaler aussi sûrement ce week-end côté rugby, Jean-Claude.
Jean-Claude,
qui était parti au thé.
On va attaquer les phases finales du top 14. Alors donc, vendredi soir, il y aura Stade Racing. Le vainqueur rencontrera Toulon en demi-finale. Et le samedi, il y aura ASM contre Castres. Le vainqueur de ces deux équipes rencontrera Montpellier en demi-finale. Il y aura de la dernière journée de Pro D2. Mais là, on va chercher uniquement la qualification pour jouer les barrages à domicile entre Narbonne, Pau et La Rochelle. Donc Agen, Bourg-en-Bresse, ça devrait être une formalité pour Agen. Pour Gouin, Narbonne doit aller faire un résultat.
Je t'entends plus. Est-ce que tu peux parler dans ton micro, s'il te plaît, Jean-Claude?
Ah, excusez-moi. Donc voilà, c'est mieux. Je disais que Agen, Bourg-en-Bresse, c'est une formalité pour Agen. La Rochelle, qui reçoit Lyon, va devoir s'arracher pour gagner sa qualif à domicile. Et Narbonne voudra aller faire un résultat à Bourgoin pour pouvoir aussi espérer se faire le barrage à domicile. Il ne faut pas oublier qu'il y aura le match retour de Fédéral Une entre Aubenas et l'USM à Montauban. L'USM avec un point d'avance. Moi, je pense que c'est bon pour les demi-finales. Et j'aurais une petite annonce à faire aussi, hors rugby, pour le Trail des Trois Rocs de Saint-Antonin-Louleval, qui a lieu le jeudi d'Ascension, c'est-à-dire le 29 mai. Alors, il y a trois courses, le trail long de 46 km, le trail court de 24 km et une rando de 16 km, il reste plus que quelques places. Alors les organisateurs m'ont demandé s'il était possible de dire aux gens de se presser parce qu'aucun engagement ne pourrait être fait le jour de la course. Donc on peut se renseigner d'urgence toute la semaine au 06 03 69 72 03 06 03 69 72 03 ou sur traildestroisrocs.fr. Voilà, merci.
Et donc en handisport, en basket fauteuil, samedi à 18h à Tournefeuille, il y a un match amical entre la France et l'Espagne. Si vous souhaitez plus d'infos et notamment les adresses, allez sur Comité Handisport Haute-Garonne sur Facebook. Et puis en rugby fauteuil, Montauban organise le dimanche 8 juin à 15h la finale du championnat de France. Et à cette occasion, l'équipe des Pandas recherche des bénévoles pour l'organisation de cette journée. Pour y participer et avoir plus d'infos, allez sur la page des Pandas Montauban Handisport sur Facebook.
Ah ben voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous souhaite de passer une belle semaine et puis même une belle semaine suivante puisque on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine édition de Lundi Sport. Salut tout le monde.
Jérémy, bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut tout le monde.